Chronique agricole en compagnie du responsable des communications de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue, David Prince, qui est au bout du fil. Bonjour, David.
Oui, bonjour, Simon.
Aujourd'hui, on voulait faire ce matin là, un petit bilan agricole de l'été. Comment ça s'est passé un peu là, cet été?
Ben oui, ben je pense que les gens en ont entendu aussi parler un peu dans les médias. Ça a été un été assez spécial un peu partout au Québec. Là. Ailleurs au Québec, ils parlaient beaucoup de la pluie, puis des inondations et tout ça, puis des pertes agricoles liées vraiment au surplus d'eau. Au Témiscamingue, je vous dirais que c'est entre le sud du Québec puis l'Abitibi-Ouest. Donc, ça a été quand même relativement bien au Témiscamingue. Une année moyenne, je vous dirais, pas une année exceptionnelle, mais pas les catastrophes qu'on a vécues peut-être ailleurs. Puis c'est ça, c'est vraiment en Abitibi-Témiscamingue qu'il y a eu une saison vraiment hors norme. Là. Ça a commencé dès le mois de début juin avec les feux de forêt. Là. Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais c'est important de revenir sur ces événements-là parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Là, en région, on a été obligé, nous, à l'UPA, mais en collaboration avec le ministère de l'Agriculture également, là, puis les autorités de la SOPFEU, on est obligé d'évacuer là, plusieurs fermes. En fait, on a eu plus de 1000 bovins qui ont été obligés de changer de ferme. Puis, tu sais, il n'y a pas de guide décrit hein, pour faire ce genre d'opération-là. Ça a été quand même assez complexe. Et cette dernière minute, on improvisait, tu sais, il va être où le feu demain, est-ce qu'on devrait évacuer tel secteur en prévention ou tel autre secteur, il y a des producteurs qui voulaient pas bouger leur troupeau et on les comprend également, donc ça a été d'autres qui souhaitaient plutôt quitter, mais avant que ce soit obligatoire, bref, ça a été une gestion assez complexe là, au niveau des feux de forêt. Puis rapidement, là, une fois que les vaches ont été de retour dans leur enclos, ben rapidement, on s'est rendu compte que la sécheresse allait probablement être pire que les feux de forêt. Là. Effectivement, parce que les feux de forêt ont affecté quelques producteurs, mais la sécheresse affecte vraiment tout le secteur de l'Ouest. Il y a des producteurs là, qui ont eu des pertes là, de 75-80% en première coupe. Puis certains que même en deuxième coupe, il n'y a rien qui a poussé tellement la sécheresse du début de l'été était puissante. Là. Donc il a fallu rapidement réagir également, faire des rencontres avec le ministère, avec la financière agricole pour que les producteurs soient compensés.
Oui, on en a parlé avec Pascal Roux, comme quoi la première avance était nettement insuffisante. Là.
Exact. Il y a eu une première avance mi-août, par contre, était insuffisante là, aux yeux des producteurs parce que ça ne comblait pas. En fait, je pense que Pascal vous a expliqué, là, mais il y a différents critères, dans le fond, au niveau des précipitations. La pluie du 1er mai, ben nous, on prétend qu'elle n'a pas été utile à faire pousser les cultures parce qu'il y avait encore de la neige au sol. Le gel hivernal qui n'a pas été pris en compte, ben en fait, c'est le verglas de l'hiver qui n'a pas été pris en compte par les différentes stations météo, mais qui ont affecté les cultures. Donc, c'est tout ça là, qu'on travaille avec la financière agricole et le MAPAC. En théorie, il devrait avoir une autre avance en octobre pour les producteurs, mais il y a beaucoup, beaucoup de producteurs là, actuellement qui n'ont pas les liquidités pour acheter le foin nécessaire pour nourrir leurs troupeaux. Et c'est une situation hyper stressante et on les comprend.
On a parlé beaucoup de météo et de quelle façon ça a impacté la saison agricole, mais il y a quand même eu des activités cet été-là.
Oui, bien c'est ça. Si on veut être un peu plus positif,
oui.
il y a eu quand même plusieurs activités cet été. Une année sur trois, la tournée mangeoire locale se déplace dans l'Abitibi-Témiscamingue et c'était le cas cette année. On s'est déplacé au Témiscamingue là, au mois de juillet avec l'ambassadeur pour la région, c'était Bob Le Chef, donc qui est bien connu là, pour ses émissions à la télé et tout ça. Puis il a été très, très, très sympathique avec les producteurs agricoles visités. Il y a eu quatre fermes là, qui font de la mise en marché de proximité qui ont été visitées. Donc, on parle de la ferme Norvie. C'était à la toute fin là, de la cueillette de fraises, donc Bob le chef a quand même pu aller dans les champs cueillir des fraises biologiques, donc C'était savoureux, là. On a vraiment beaucoup apprécié. Après ça, on est allé à la ferme L'Éden Rouge, où on a visité les installations, ses écoles et tout ça. C'était le dîner également là, à l'Éden Rouge. Donc, on avait le site, là, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais c'était paradisiaque. On était dehors, les gens étaient assis, il faisait beau, on a pu manger. Il y avait peut-être une quarantaine de personnes là, qui faisaient la tournée mangeons locale, là, des différents intervenants avec Bob le chef puis des différents producteurs qui étaient là. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Après ça, on est allé à la sucrerie Temsuc. Dans le fond, ça aussi, c'était intéressant parce qu'on voulait montrer là, au reste du Québec qu'il se faisait de l'excellent sirop d'érable dans la région, puis des produits de l'érable, des produits transformés. On est allé à la crème glacée par la suite, là, à Ville-Marie, justement pour démontrer là, qu'on faisait de la crème glacée avec les produits de l'érable, produits directement au Témiscamingue. Donc, vraiment, des produits locaux. Et on a terminé ça ben, avec un bon cocktail là, au vignoble, le domaine des Ducs. Donc, on était là, on a goûté différents vins produits dans la région également. Donc, c'est un super beau décor là, à l'île du collège. Il n'y a pas mieux. Donc, c'est une super belle tournée. Bob le chef était vraiment, vraiment content. Donc, ça s'est bien produit. Dans les autres activités, il y a eu aussi des producteurs de bovins de la région qui ont tenu un conseil d'administration provincial en région. Donc, eux, à chaque année, là, il y a une région différente qui reçoit le CA provincial. Donc, il y avait des gens de partout au Québec qui sont venus ici à la fin juillet. Ils ont fait une tournée de différentes fermes au Témiscamingue, en Abitibi. Donc, ils ont pu voir un peu le dynamisme agricole, mais c'était également touristique. Là. Ils ont visité différents sites touristiques dans la région. Puis, durant les matins, ben, il était en réunion là, pour prendre des décisions au niveau de la Fédération des bovins du Québec.
Justement, il y avait des portes ouvertes dans la région cette saison, mais ce n'était pas au Témiscamingue. Là.
Oui, ben, en fait, chaque année, on tient des portes ouvertes là, en région, sauf pendant la pandémie, là, où il y a eu deux années qu'il n'y en a pas eu. Par contre, l'année dernière, on était au Témiscamingue là, à Lorainville, mais cette année, la ferme qui avait été choisie, c'était dans la MRC Abitibi, donc on était à la Niellerie La Grande Ourse de Saint-Marc-de-Figuerie. Ça a super bien été, il faisait beau, on était chanceux. Il y a eu plus de 2000 visiteurs qui sont venus à la ferme. Puis tu sais, le concept, c'était vraiment de faire le tour de la Niellerie, évidemment, puis de goûter les produits de la Niellerie. On sait que ça s'est beaucoup développé dans les dernières années, là, cette ferme-là, avec le gin, avec les spiritueux, le gin, mais également avec les différents alcools qui sont servis, les différents produits à base de miel, tout ça. Mais il y avait également d'autres producteurs qui étaient sur place pour montrer leur savoir-faire, pour faire déguster leurs produits en vente également. Donc ça a vraiment, vraiment bien été. Il y avait des activités pour les enfants. C'était bien la ferme, mais ben, je pense que c'est pas pour les portes ouvertes, c'est toujours... Mais les enfants peuvent aller, il y a une espèce de grosse malle à l'entrée, ils se déguisent avec des déguisements là, de producteurs apicoles, puis ils peuvent se prendre en photo. Ça a été un grand succès. Il y avait les jeux gonflables également. Donc, ça a été vraiment une belle activité, là, les portes ouvertes cette année. Puis, ben, ça devrait être de retour en 2024. On ne sait pas exactement encore où, possiblement au Témiscamingue, mais ça reste à être déterminé encore.
Donc, malgré des périodes un peu plus difficiles au cours de l'été, il y a quand même du bon qui en ressort dans le monde agricole, mais il reste du travail à faire.
Oui, effectivement, ça a été... il y a eu des belles activités, mais ça a été quand même une année difficile. Puis on le voit là, avec les changements climatiques. On ne sait pas trop à quoi s'attendre là, des prochaines années, des prochaines décennies. Donc, les producteurs agricoles, ils ont... sont les premiers témoins, dans le fond, des changements climatiques qui se passent. Puis l'année 2023, là, ça a été un réveil un peu pour tout le monde. Par contre, on doit avoir le soutien des autorités. On le voit là, dans les autres pays, les gouvernements soutiennent davantage le monde agricole. Et je crois que les producteurs de la région sont en droit de s'attendre à avoir le même support là, que les autres, puis de pas avoir, tu sais, ils paient des, assurances sont payées en grande partie par les producteurs également. Donc, c'est pas de la générosité qu'ils demandent, mais ils demandent seulement d'être compensés à la hauteur des pertes qu'ils ont eues. Là.
Tout simplement. Merci beaucoup, mon cher David. Toujours un plaisir de te recevoir à l'émission.
Bien, ça me fait plaisir, Simon.
Au revoir.
OK, au revoir.